Mémodio, une mémoire sonore.
Merci d'être là en amont du spectacle pour entendre. On a dit conférence, moi j'appellerais pas ça une conférence, j'appellerais ça un topo. Voilà. Parce que, en fait, un petit point, je suis pas du tout une spécialiste de Colfès, c'est pas la question. Moi, je travaille ici depuis plein d'années, depuis une vingtaine d'années, et en fait, Coltès m'a pourchassé dans l'histoire de moi ici dans ce théâtre. C'est-à-dire qu'il y a une vingtaine d'années, on avait des gens qu'on connaissait, notamment un acteur, qui est venu nous voir. C'était au début, on avait la salle, elle n'était pas du tout dans cet état-là. Ici, il n'y avait pas de dalle de béton, c'était un peu comme dehors. C'était très brut comme espace. Et ce comédien est venu nous voir et nous a dit qu'il était obsédé par Coltès, que je ne connaissais pas à l'époque, et qu'il voulait monter dans la solitude des champs de coton, cette pièce-là, avec un acteur beaucoup plus âgé que lui. Donc lui était très jeune, il avait, je ne sais pas, 23, 25 ans, et l'autre acteur avait 55, 60 ans. Et on lui a dit OK. Donc il est venu jouer cette pièce pendant, je ne sais plus si c'est une ou deux semaines, mais moi j'ai assisté aux représentations tous les soirs. Du coup, j'ai rencontré l'écriture de Coltès à ce moment-là. Cette pièce m'a vraiment frappée par la beauté de la langue, enfin quelque chose quoi, qui fait que j'ai l'impression que quand on rencontre l'écriture de Coltès, après, il y a quelque chose qui est entêtant. Et peut-être qu'on peut la détester, je ne sais pas, mais ce n'était pas le cas. J'ai adoré cette écriture. Et après, il est revenu, genre 5 ans après, en disant qu'il était encore obsédé par Coltès, il voulait remonter cette pièce, mais en fait, cette fois-ci, il changeait de personnage. Dans la pièce, il y a deux personnages, il y a le dealer et le client. Et la première fois, lui jouait le client, et quand il est revenu 5 ans après, il jouait le dealer. Mmh. Avec un mec qui était cette fois-ci plus jeune que lui. Du coup, rebelote, on lui dit OK, mais lui, il était obsédé, c'était incroyable, pendant 10 ans par cette pièce, et il l'a remontée. D'une manière très brute, l'espace était toujours en état de brutalité, je ne sais pas comment dire. Et quelques temps plus tard, on a un autre comédien, danseur, qui vient et qui nous dit qu'il veut monter la nuit juste avant la forêt, dans ce lieu ici. Et donc on lui dit oui, et on entend cette pièce, la nuit juste avant les forêts, pendant de nouveau une semaine, en assistant aux présentations tous les soirs. Ce qui fait qu'il y a eu un accompagnement de cette écriture jusqu'à ce que Philippot, voilà, viennent avec nos amis acteurs et montent le diptyque, les deux, et que Philippot me demande à un moment donné si je veux dire des choses sur Coltès. Moi, j'y connais pas grand-chose, dans le sens, je suis public, mais j'ai eu envie aussi de chercher un peu autour de sa vie, son œuvre, entre guillemets, et pour pouvoir partager quelque chose avec vous. Et donc ce que j'ai noté là, c'est que ce que j'ai envie de dire, c'est pas fait pour éclairer, commenter ou expliquer la mise en scène que propose Philippot. Je parle à partir du texte et du voyage que moi j'ai fait avec ce texte, pas du tout à partir de ce qu'ils en ont fait. Voilà, c'est un point que je vais préciser. Et donc, l'idée, c'est de parler une quarantaine, 45 minutes pour qu'après, vous ayez une pause pour pouvoir manger, boire un coup avant que les spectacles ne commencent. Donc, commencez peut-être déjà par parler de Bernard-Marie Coltès. J'imagine qu'ici, il y a des gens qui connaissent, qu'il y a des gens qui ne connaissent pas, il y a des gens qui connaissent très bien, donc pas du tout. Donc, un petit point biographique sur Bernard-Marie Coltès. Bernard-Marie Coltès, quand on l'a rencontré par son écriture, ses spectacles, et qu'on s'est un petit peu intéressé, ce qui reste, je trouve, je ne vous ai pas porté, là je voulais, j'ai pas oublié, c'est quand même un visage, je trouve, l'image d'un homme jeune, éternellement jeune, dans le sens où il est mort à 41 ans, en 1989, des suites du sida. Et donc il a un visage comme ça hyper beau, très angélique. Je trouve ça assez frappant. On a des espèces de photographies en noir et blanc qui, je trouve, restent dans la mémoire une fois qu'on les a vues. Il a été révélé à large public. Il a pris une reconnaissance nationale et internationale grâce aux mises en scène qu'en a proposé Patrice Chéreau. Ça a commencé en 1983 et ça n'a pas cessé jusqu'à sa mort, puisque Chéreau s'était engagé au moment de leur rencontre à tout monter. Il lui avait promis de monter toutes les pièces qu'il écrirait, et c'est ce qu'il a fait jusqu'à 89. Il est né en 48 et il est né dans la ville de Metz. Il a grandi dans le quartier arabe. Il était issu d'un milieu petit bourgeois de province. Et dans toutes ses pièces, on trouvera une détestation profonde de la province. Il dit dans des interviews et des notes, il dit « mais c'est des gens en province, ils n'ont même pas le Galilée, ils croient que la Terre tourne, ils croient être au centre du monde, ils n'ont toujours pas compris qu'en fait on n'est pas le centre du monde, etc. » Enfin, il y a plein d'articles, de lettres, etc. qui montrent une espèce de détestation profonde du milieu dans lequel il a grandi. Il avait son papa était militaire de carrière. Il a participé aux guerres coloniales, l'Algérie, l'Indochine. Sa mère était ultra croyante. Donc il a grandi, comme il le dit, dans un milieu très droitier. Voilà. Il a été ensuite dans un pensionnat. Et dans ce pensionnat qui était jésuite, il dit qu'il a fait une rencontre capitale, c'est la rencontre d'un professeur qui lui a... C'était un gars qui écrivait pour la revue Esprit. Et ce professeur lui a fait découvrir lui a fait découvrir la littérature et le cinéma de son époque. Et dans le même temps, il dit que l'enseignement jésuite lui a donné le goût de la controverse intellectuelle. Voilà. Pendant toutes ces années d'enfance, son père était très absent. Et par contre, il était très présent par le fait qu'il lui envoyait beaucoup de livres. Il a énormément lu pendant toute son enfance et son adolescence. Et les noms qu'il va citer, qu'il reste, c'est Rameau, qui l'accompagne toute sa vie. Les Américains, Jack Kerouac, London. Aussi Jules Verne, il parle ensuite des philosophes, de Descartes, de Pascal, de tous les classiques, de Homère à Shakespeare. En France aussi, il a beaucoup lu, il dit Claudel, qui est les Russes, Dostoïevski, Gorky. Il s'est beaucoup disputé avec son père pendant toute son adolescence, et en même temps, dans les entretiens qu'il donne, il dit qu'il reconnaît à son père un grand sens moral, parce que son père a démissionné de l'armée au moment de la guerre d'Algérie, parce que moralement, il ne soutenait pas les horreurs qui étaient en train d'être commises. Et avec sa mère, il entretiendra toute sa vie une espèce de relation d'amour fou, inconditionnel. Il lui écrit des lettres sublimes dans lesquelles il lui déclare une espèce de flamme. Par exemple, il lui dit à la fin d'une lettre: rappelle-toi que tu seras toujours pour moi mon seul grand amour pur et véritable. Et des lettres comme ça, on en trouve tout au long de son existence. Il a, quand il était adolescent, énormément écouté de la musique, du classique. Il dit qu'il a une passion pour Jean-Sébastien Bach. Il a appris le piano, il a appris l'orgue. Et ensuite, il s'est intéressé au jazz, au blues, et puis après, au rap, beaucoup, et au reggae. Et ce qui frappe, quand on regarde son parcours, c'est, à un moment donné, sortir de l'adolescence, s'opère une sorte de renversement complet des valeurs dans lesquelles il a grandi. Je vous lis un extrait d'une lettre qu'il écrit à sa mère, à 20 ans. Il lui dit: je ne conçois un avenir, comment te l'expliquer, que dans une espèce de déséquilibre permanent de l'esprit. Je suis dans cette situation où je sais que ce qui vous réjouirait me tue, et ce qui me semble la seule voie vous tuera. Papa ne saura jamais à quel point tout ce qui a été pour lui des valeurs, je le comprends d'ailleurs, non seulement n'est rien pour moi, mais en plus, je veux le détruire systématiquement. Une espèce de violence avec laquelle voilà, il annonce qu'il entreprend de détruire le sens du monde, entre guillemets, qui lui a été transmis. Et pour autant, on se rend compte que c'est pas pour le remplacer, c'est pas pour lui en substituer un autre, tout figé, tout fait. On a l'impression qu'à partir de là, il va essayer de composer avec des bribes de sens. Il ne remplace pas cet ordre-là par un autre ordre idéologique ou religieux. Quand il a 20 ans, c'est 68, il participe de la révolte de mai, il est inscrit quelques mois aussi au Parti communiste, mais à ce moment-là aussi, il a un petit boulot qui l'attend au Québec, il s'envole pour le Québec, il est moniteur de colonies de vacances, et au moment où il travaille au Québec, il en profite pour faire un voyage à New York. Et là, il écrit des lettres à ses amis et à sa famille où il décrit le choc absolu qu'a été la rencontre avec cette ville, où il dit que c'est le choc de l'autre, avec un grand A, que c'est vraiment un autre monde. En parallèle de ça, enfin là je parle de 68, mais juste avant, en 67, il s'est inscrit quelques mois dans une école de journalisme, et juste le temps pour lui de se décider et de décider qu'en fait il ne voulait pas travailler au sens courant du terme juste pour gagner sa vie, mais qu'il avait l'intention en fait d'écrire. Et une chose à préciser, c'est que toute sa vie en fait, à part les dernières années, il n'a pas gagné d'argent et c'est sa famille et ses amis qui l'ont aidé parce que voilà, il croyait en lui. Et que ça, c'est peut-être les 3-4 dernières années où voilà, l'argent a commencé à rentrer de par le travail d'écriture. En 68, il assiste à une pièce de théâtre, Médée A, mise en scène par Georges Labellie. Et là, il se dit que ce qu'il veut écrire, c'est du théâtre, et exclusivement du théâtre. En 69, il monte une troupe avec des amis, ça s'appelle le théâtre du Quai. Et pour cette troupe, il va écrire des pièces, il va faire des adaptations de textes, et c'est lui-même qui les mettra en scène. Et pendant tout le temps où il a cette troupe, il intègre aussi, en 70 je crois, l'école du Théâtre National de Strasbourg. Il entre dans la section régie. Alors il ne voulait pas devenir régisseur, mais si j'ai bien compris, il y a un mec qui était dans cette section-là qui a eu l'occasion de lire une de ses pièces et qui s'est dit que là, il y avait potentiellement un écrivain et donc il était bon que ce jeune homme rentre dans l'école, quelle que soit la section, pour pouvoir ensuite le fréquenter et fréquenter ses œuvres. Il est là jusque, donc du coup, c'est 3 ans, cette école-là. Il en sort en 73 et entre 73 et 76, il n'écrit plus rien. C'est une sorte de période d'errance. Il raconte qu'à ce moment-là, il n'écrivait plus du tout, qu'il s'est pas mal drogué, qu'il a arrêté parce que ça ne lui convenait absolument pas. Il est tombé dans une grande dépression. Et je sais, puisqu'il l'écrit à un moment donné, qu'il a fait une tentative de suicide en 1975. Et là où tout change, c'est en 77, il écrit la première pièce que vous verrez ce soir, qui s'appelle « La nuit juste avant les forêts ». Et il dit à propos de cette pièce qu'à partir de là, c'était pas pareil, quoi. C'était pas pareil que ce qu'il écrivait avant, que son œuvre commence à partir de ce moment-là, et qu'il sait pas trop comment l'expliquer, mais que quelque chose a changé. Ces 3 ans où il faisait plus rien, où il pensait qu'il n'écrirait plus, lui ont permis d'accéder à un autre niveau, registre d'écriture. Quoi. Et là, on est en 77. Et c'est à partir de là, jusque 89, la date de sa mort, que toute sa vie va s'articuler entre écriture, voyage et rencontre. À ce moment-là, 78-79, il fait son premier voyage en Afrique, il rencontre le Nigeria. Il va en Amérique latine, c'est à la hauteur de ce qui s'est passé pour lui à New York. À chaque fois, c'est des chocs, la rencontre de l'autre, d'un autre monde, d'autres manières de vivre. Il rencontre également Patricio, à qui il fait lire ses deux premières pièces. Et Patricio décidera de monter... comment s'appelle la pièce qu'il monte en premier?
C'est pas l'Ouest?
Non, c'est...
Combat de maître.
Exactement, Combat de maître de chien, qu'il montera en 83. Il mettra 2-3 ans à mettre en œuvre le travail et la mise en scène. Et à partir de là, il s'engage, il lui dit, de toute façon, maintenant je monterai tout ce que tu écris. Et, ouais.
Non, parce que quand il avait lu la nuit sur le forêt, il avait dit, je comprends
rien. Je comprends rien, oui. D'abord, c'est la première pièce qu'il lit, et Chéreau, ça lui tombe des mains, il dit, je sens bien qu'il y a quelque chose dans cette pièce, mais moi, j'y pipe rien du tout. Et du coup, il l'a donné à un autre metteur en scène, un ami à lui, qui a dit, moi, elle m'intéresse, et Chéreau lui a dit, toi, monte celle-là, et moi, je m'occupe de l'autre, en gros. Et à partir de là, il dit qu'il essaie d'être à la fois deux choses. Ce qu'il adore dans l'écriture, c'est que ça lui permet de voyager, et tout en étant au milieu des autres, il peut toujours avoir des moments de solitude extrême qui correspondent à ses moments d'écriture. Et il dit dans des lettres qu'il a envie d'être deux choses à la fois. Il voudrait être Aristote, c'est-à-dire le philosophe en chambre qui voyage au coin de sa cheminée, qui ne sort jamais de chez lui, et en même temps, il rêve d'être Laurence d'Arabie. C'est-à-dire, voilà, parcourir l'univers de manière extrêmement concrète. Et l'écriture lui permet de rejoindre cet endroit rêvé, en quelque sorte. Donc là, dans ce que je vais raconter, je voudrais me fixer, m'ancrer la parole que je vais vous donner sur la deuxième pièce que vous allez voir ce soir, qui est « Dans la solitude des champs de coton ». Parce que c'est celle que j'ai le plus entendue et du coup qui m'a le plus frappée. Et elle a été écrite en 85-86. Il l'a écrite entre Paris, New York et le Brésil. Et même si elle n'est pas, comment dire, au début de son œuvre, elle constitue quand même une espèce d'origine. Vous voyez ce que je veux dire ? Une origine dramaturgique, mais par le milieu. C'est pas le début, mais ça reste quand même une espèce de pièce... qui est symptomatique du travail que réalise l'écriture. Donc avant de dire c'est quoi cette pièce, si vous ne la connaissez pas, qu'est-ce qui se passe dedans, c'est juste replacer un tout petit peu le contexte. On est dans les années 80, et dans les années 80, au niveau du théâtre et des spectacles qui se montent, le mouvement, on va dire, qui est majeur, qui est à l'œuvre, c'est un mouvement où les mises en scène essaie de mettre à bas ce qu'on appelle, dans le jargon théorique, le textocentrisme. Textocentrisme, ça veut dire le texte est au centre et la mise en scène est en quelque sorte une espèce de le balcon de la littérature. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas fonder une mise en scène sans texte. C'est l'élément majeur, c'est l'élément premier. Et il y a tout un mouvement donc, qui veut autonomiser en fait le spectacle. Le spectacle n'est pas le texte. Le texte peut être un élément de la représentation parmi d'autres éléments, à égalité avec les autres éléments, pas plus important que le jeu des acteurs, pas plus important que la lumière, que la musique, que la scénographie, que le mouvement des objets sur le plateau. Voire même, on peut envisager du coup un théâtre où le texte est absent, un théâtre où le texte, en tout cas, n'est pas le moteur. Ce qui aboutit à ce qu'on appelle couramment depuis les écritures de plateau. Et quand on regarde une pièce comme dans La solitude des champs de coton, on est un peu frappé, on se dit, mais il est complètement à contre-courant. Dans la mesure où on se dit, mais c'est un texte... Enfin, quand on le découvre pour la première fois, même en l'ouvrant, ne serait-ce que le livre, comme ça, on se dit, mais c'est un théâtre de la parole. Ça paraît évident, c'est un théâtre de la parole qui est extrêmement lyrique, et en même temps, on sent bien que c'est pas une écriture réactionnaire, que c'est pas un retour en arrière. Du coup, je me dis, mais pourquoi ça fait cet effet-là, que c'est pas un retour en arrière, que ça paraît, même si ça ne fait que parler, c'est parce qu'il me semble que ce qui prime dans cette écriture-là, c'est pas l'énoncé. L'énoncé, c'est le discours, c'est le contenu du texte. C'est l'énonciation qui prime. C'est l'acte même de la communication. Et ça, ça me paraît vraiment fondamental dans l'effet que produit cette écriture. Donc on n'a pas l'impression d'une écriture poussiéreuse ou réac. La différence entre énonciation et énoncé, ça serait un peu la même différence qu'entre la fabrication et le fabriqué. Vous voyez, d'un côté, il y a le résultat, et de l'autre, il y a le processus. Et le processus, c'est autre chose que l'objet même, c'est tout ce que ça entoure. C'est les conditions dans lesquelles on le fait, c'est pas le message brut, vous voyez, cette chose-là. Ce qui importe, en fait, plus que le contenu du texte lui-même, ça serait le fait même de communiquer. Une chose comme ça, qui, du coup, ramène à une fonction, il me semble, primordiale du théâtre, qui serait interroger les modes de fonctionnement du lien social dans la parole, par la parole. C'est quoi le statut de la parole dans le théâtre aujourd'hui? C'est quoi le statut de la parole entre les gens, dans le monde social, dans l'espace social, dans le monde quotidien, entre guillemets? Dans ces années 80, en plein libéralisme, mon temps, qu'est-ce que c'est le statut de la parole? Pour moi, il me semble que c'est des enjeux fondamentaux de l'écriture. Et il disait, lui, moi j'aime bien ce mot, il disait, on retrouve souvent dans ses notes, il dit « je veux écrire des langages qui soient concrets ». Il dit pas réaliste, mais concret. Il ne s'explique pas plus que ça, mais je trouve que c'est des mots qui peuvent porter résonance. Donc si on prend cette pièce, donc spécifiquement, dans la solitude des champs de coton, donc qu'est-ce que c'est cette pièce? Alors déjà, dire une chose qui n'est pas marquée dans le livre, c'est que dans toutes ses notes, ses lettres, ses entretiens, ses interviews, il dit, donc dans cette pièce, il y a deux personnages, un qui s'appelle le dealer, l'autre qui s'appelle le client. Et il dit qu'il l'a écrit pour un noir et un blanc. Il dit le dealer c'est un black, le client c'est un blanc. Et il ne le précise pas dans la pièce, et de toute façon, Coltès dit qu'en fait, il le dit tel quel, il dit pas un texte de moi où il y ait un nègre, même petit, même caché, même derrière un réverbère. Hein. C'est-à-dire qu'il dit que de toute façon, dans toutes ces pièces, il y a un black. Donc je trouve toujours trouvé ça étonnant que ça ne soit pas marqué dans le livre. Hein. Donc quand on ouvre le livre, on découvre un dialogue entre deux personnages, le client et le dealer. Lui, il dit que ces personnages-là, ça serait comme ce qu'il imagine, c'est un gros bluesman hyper tranquille, noir, qui serait le dealer, et il imagine un punk énervé, agressif, jeune et maigre, qui ferait le client. Il dit aussi que ça pourrait être un chien et un chat. Du coup, ce qu'on entend là, c'est que quelque part, ça serait deux mondes relativement hostiles, qui n'ont pas grand-chose à faire l'un avec l'autre, qui sont mis en présence. Au tout début du livre, avant que ça commence à proprement parler, il y a une didascalie, une petite note, et c'est une définition du mot « deal ». Deal, hein, D-E-A-L. Je vous la lis parce que elle ne fait pas partie de la pièce, vous ne l'entendrez pas ce soir dans le spectacle. Un deal est une transaction commerciale portant sur des valeurs prohibées ou strictement contrôlées et qui se conclut dans des espaces neutres, indéfinis et non prévus à cet usage entre pourvoyeur et quémandeur, par entente tacite, signe conventionnel ou conversation à double sens, dans le but de contourner les risques de trahison et d'escroquerie qu'une telle opération implique à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, indépendamment des heures d'ouverture réglementaire des lieux de commerce homologués, mais plutôt aux heures de fermeture de ceux-ci. Donc ça, c'est sur la première page, définition du deal. Oui, une chose que je voulais dire, c'est que autant le black, le noir dont je parlais, on n'en a pas perception dans le texte même, mais par contre dans le titre, dans la solitude des champs de coton,
quand on entend l'expression chant de coton, forcément référence au travail de l'esclavage aux États-Unis. Et donc c'est là que le noir est présent dans l'œuvre de manière complètement directe. Donc on a le client, on a le dealer, le personnage, ça commence. Et à partir du moment où ça a commencé, il n'y a pas d'autre action que la parole. La parole, c'est la seule action de la pièce. C'est-à-dire que ce qui fait l'action, c'est l'échange entre les deux protagonistes. Ils s'envoient des espèces de monologues énormes, parce qu'on dit dialogue, mais en fait c'est plutôt une juxtaposition de monologues, c'est des blocs de langage poétiques qui se succèdent. Et Coltès dit qu'il les écrivait d'ailleurs pas dans l'ordre. Il écrivait un jour un bloc de langage qui était destiné au personnage qu'il appelle client, et puis un autre jour, peut-être un autre pour ce même personnage, et puis le soir, un pour le dealer. Et puis à la fin, il avait plein de blocs de langage, il les a pris, il les a disposés dans un certain ordre, et il a fait des liaisons, il a gommé les points, quoi, d'une certaine manière. Donc ce que la pièce met en scène, me semble, c'est le langage même, quoi. Et on a un peu, comme dans une musique, on a des glissements, comme si elle était constituée de mouvements, comme une partition musicale, on a différents mouvements dans la pièce où chacun va essayer d'attirer l'autre sur son territoire, dans une espèce de combat verbal. Et c'est ça qui constitue vraiment la pièce. Ce qui compte, en fait, c'est pas ce qui est échangé, c'est l'échange même dans cette pièce. Donc c'est un deal, le mot deal qu'on a au tout début, on se dit, ok, c'est un deal de langage, c'est un commerce de langage qui va s'opérer dans l'œuvre. Et si on prend les premières lignes, la première ligne de la pièce, la première phrase de la pièce, c'est « Si vous marchez dehors, à cette heure et en ce lieu, c'est que vous désirez quelque chose que vous n'avez pas, et cette chose, moi, je peux vous la fournir. » Cette phrase, quand on a entendu la pièce une ou deux fois, elle est un peu mythique. Voilà, si vous marchez dehors à cette heure et en ce lieu, c'est que vous désirez quelque chose que vous n'avez pas, et cette chose, moi, je peux vous la fournir. Donc on a une espèce de cadre commercial qui est posé d'emblée. Et ce qui va frapper dans cette pièce, c'est deux choses tout de suite. C'est que d'un côté, bon, la virtuosité et la beauté de la langue, si vous ne la connaissez pas, vous verrez tout de suite, c'est hyper frappant. On se demande presque quand on l'entend si ce n'est pas des alexandrins. Mmh. Ou s'il n'y a pas des alexandrins qui se cachent à l'intérieur des phrases. On a presque envie de compter, mais on se dit, attends, ça fait 12 là ou pas. C'est vraiment une langue extrêmement virtuose, un peu néoclassique, parfaite. Et ce qui frappe d'emblée, c'est le caractère complètement vide du deal. C'est-à-dire qu'en fait, de toute la pièce, on ne saura jamais de quoi il est question. On a un dealer, on a un client. Que vend le dealer? On ne sait pas. Tout. Rien, on ne sait pas. Et à qui le vend? À un client qui ne veut rien et qui refuse tout. Donc du coup, on est dans une sorte de situation où en fait, c'est comme si... on pourrait dire que c'est une écriture de l'épure. Parce qu'il épure la situation de l'échange pour en garder juste les termes les plus bas. Vous voyez ce que je veux dire? On ne sait pas le contenu. Il reste juste le cadre de la transaction, mais le contenu est vide. Donc on a une espèce tout de suite de mouvement, c'est très concret, et en même temps une espèce de mouvement d'abstraction en même temps. Et ça fait un truc un peu étrange qui fait que c'est une pièce qui paraît un peu classique sur le début. On se dit, oui, on a deux personnages bien identifiés, il y a une fable. Un qui veut vendre un truc à un autre, et puis ils vont s'échanger des paroles là-dessus. Et en même temps, tout de suite, les personnages ne sont pas tout à fait là où on les attend. Puisque quand ça commence, on se dit, ok, le dealer, on sait, il se présente, c'est l'homme qui est de la marge, l'homme qui est des transactions illicites, face au client, qui lui-même se présente comme l'homme de la norme, celui qui est régi par des conventions. Et puis très vite, il y a une chose qui est très bizarre, c'est que le dealer déjoue en quelque sorte l'attente
consommatrice du client, puisqu'il dit, attendez, moi, je ne suis pas là pour donner du plaisir, je ne suis pas là pour répondre en fait à votre attente, je suis là pour, il dit, donner une forme à votre désir. Donc là, ça devient un petit peu très très bizarre, puisqu'on a l'impression qu'il attend du client qu'il se mette à nu et qu'il lui révèle quelque chose qui soit l'inconnu de son désir, une chose comme ça. Et du coup, on se dit, mais en fait, on n'est pas dans le cadre de la consommation, d'une logique de consommation standard et habituelle, puisqu'il ne répond pas à... Comment dire ? Comment je l'ai écrit ? Oui, voilà, c'est ça. On sent qu'il prétend à un autre commerce que le commerce économique standard. Ce qu'il veut de l'autre, c'est le dévoilement total, le dévoilement du désir. Et le désir au sens le plus large du terme, c'est-à-dire tout ce qui peut en nous toucher à l'inconnaissable, à quelque chose qu'on ne maîtrise pas tout à fait, à une forme d'instabilité. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et le dealer dit même que c'est cruel d'aller chercher ça. Et j'entends ce mot cruel au sens même où l'employait Antonin Artaud. Il dit qu'il y a une cruauté à aller chercher et à aller réclamer de l'autre quelque chose qui s'apparente à quelque chose de ce mot-là. Ce mot désir, il revient, je ne sais pas combien de fois dans la pièce, mais c'est énorme. C'est vraiment énorme. Et face à cette attente, on a un client qui refuse de se livrer. Et on n'est pas, il me semble, dans un rapport de dominant-dominé, on est plus dans une espèce de rapport d'évaluation des forces. En fait, moi ce que ça me fait, c'est que c'est, tout d'un coup on se dit, mais en fait c'est quasiment pas des personnages, c'est des positions dans un échange. On a un qui a une position, on a un autre qui a une position, et on a l'impression qu'à n'importe quel moment, ça pourrait se renverser. Les positions ne sont pas figées. Et pour moi, c'est en ce sens-là que ce n'est pas classique. C'est que dans un théâtre plus classique, on aurait deux caractères qui sont bien définis et qui s'affrontent dans une espèce de conflit d'identité. Mais là, ce n'est pas ça. On a des positions dans un échange et tout ce qui va compter, c'est la relation, et c'est ce qui se passe là qui peut les faire bouger. Ça peut bouger dans un sens, ça peut bouger dans un autre, et on ne sait pas du tout à quoi s'attendre entre les deux. Et ce qui est en jeu peut-être à ce moment-là, il me semble que c'est la notion même de rencontre. Ce qui se passe entre ces deux personnages, c'est l'imprévisible en fait de toute rencontre. Le dealer offre au client la possibilité de lui livrer l'objet de son désir, il lui dit « mettez-vous à nu », et il réclame en fait, il le dit comme ça dans la pièce je crois, il dit qu'il faut donner suite au premier regard. Quand on a croisé le regard de quelqu'un, on ne peut pas abandonner, on ne peut pas laisser là, on ne peut pas laisser une rencontre inachevée. Et que c'est ça qui est en jeu dans la pièce, quoi. Il faut donner suite à un regard. Et où ça, comme il le dit dans la première phrase, en cette heure et en ce lieu, et toujours, ça vaut pour toutes les pièces de Koltès, il y a toujours des lieux qui sont propices à la rencontre. C'est toujours des lieux, des espaces un petit peu marginaux qui vont faire que dans ces espaces-là sont comme des forces qui obligent les personnages, tout d'un coup, ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de se regarder, ils sont obligés de se croiser, ils sont obligés de se parler. Et dans la pièce, il utilise la métaphore de la courbure. Il dit qu'il y a des lieux comme ça qui obligent les personnes à se courber l'une vers l'autre. Et l'idée de la courbure, c'est l'idée de sortir de la ligne droite, sortir de la rectitude morale, c'est-à-dire faire un écart. Du coup, ça pourrait être assimilé à l'espace de la séduction. Parce que séduction, en latin, ça vient du mot seducere, et seducere, ça veut dire s'écarter du droit chemin. Donc on peut dire, voilà, ces espaces autres, marginaux, c'est des espaces de séduction dans lesquels les personnes, comme ça, sont contraintes, en quelque sorte, par des forces qui agissent sur elles, à se pencher l'une vers l'autre, et se croiser, se regarder et se parler. Et ces espaces-là, dans cette pièce-là, c'est l'espace du deal. Ça pourrait être autre chose dans d'autres pièces, un quai, le coin d'une rue. Ils s'opposent aux espaces sociaux ordinaires. Si on dit l'espace social, c'est quoi ? L'espace social, ce serait un espace qui a trait à la lumière, à la visibilité, c'est un espace qui est cadré, régi par des conventions, des lois. On est dans l'ordre de l'humain, de la civilisation. Il y a des juges, il y a la police. La norme est soutenue, je veux dire, par un appareil d'État. Là, on est dans l'espace social, où le moi se veut plutôt stable. Et c'est complètement l'inverse qui se produit dans l'espace marginal du deal, là, en l'occurrence, on est plutôt dans un espace obscur, l'espace hors la loi, qui conduit à une forme de mise à nu de chacun et qui est plus porté par la logique du désir que par la logique du besoin de la consommation. Parce que dans l'espace social, la consommation, ça répondrait à des besoins qui sont identifiables, identifiés, et que dans l'espace du deal, tout est beaucoup plus obscur, mystérieux, on est plus avec des sujets qui sont inquiets, qui sont chacun inquiets de l'autre, du lieu, de l'heure également. Et du coup, le fait de plonger les personnages dans un espace comme ça, marginal, ça les oblige à se décentrer. Voilà, ils vont passer de quelque chose qui serait le moi qui sait ce qu'il veut, qui se veut stable, etc., à quelque chose, ouais, on pourrait appeler le sujet, passer du moi au sujet, qui est un peu voilà, inquiet, en quête, instable. Et c'est des espaces extrêmement ambivalents, puisqu'on est à la fois au bord de la rencontre, mais potentiellement aussi au bord de la violence, hein, puisqu'on sait, on est toujours au bord de l'affrontement. Et dans cette pièce, cet espace du deal, en fait, on se rend compte que c'est l'envers du commerce légal, on pourrait dire. Et dans ces espaces-là, la parole, elle engage. Parler dans cet espace-là, c'est s'exposer, c'est se risquer, voire même c'est risquer sa peau. Et donc, pour revenir à la parole, comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment écrit dans une langue, on croirait presque un dialogue philosophique du XVIIIe siècle, où tout, à un moment donné, on a l'impression que les personnages, c'est plus des persos, c'est des machines à convaincre, à argumenter, à raisonner. Coltès, il le dit lui-même, il dit qu'il ne conçoit pas du tout le dialogue hors de l'argumentation. Pour lui, l'argumentation, c'est le pilier de sa poétique. Et donc, il reprend à son compte des traditions classiques que vont être la dialectique au sens de Platon et les débats oratoires des sophistes chez les Grecs. Tout ce qui est de l'ordre de questionner, réfuter, argumenter, réinterroger, reprendre à son compte. On est dans une espèce de joute verbale. En fait, c'est comme un combat. Un combat parole contre parole qui se noue dans la pièce. Et ce qui est drôle, c'est qu'on a, en même temps, il y a des échos qui se font. Le personnage du dealer, il utilise des stratégies de langage qui pourraient ressembler à l'homme de marketing contemporain, mais en même temps, il n'en suit pas tout à fait le parcours, quoi. Ça va toujours ailleurs. Mais il y a un peu, on se croirait dans une... Enfin, si on regarde un peu ce qu'il essaye de faire, on se dit, mais c'est comme dans une école de commerce où on apprend à aborder le client. La phase de contact, après on essaye de le convaincre, ensuite on essaie de l'amener à choisir un objet à acheter, et en même temps à provoquer une décision d'achat. On pourrait suivre presque ce mouvement-là, et en même temps, c'est toujours déjoué de l'intérieur, parce qu'en fait, il ne lui propose rien. Et, comme je vous disais tout à l'heure, il s'adresse non pas à l'être de besoin, mais à l'être de désir qui est à l'intérieur de lui. Donc c'est une espèce d'ambivalence, il y a les mots du temps, et en même temps, à l'intérieur, ça résiste. Une chose comme ça. Et je pensais, en lisant des notes de Coltès, il dit qu'il adore en fait la... Il dit qu'il adore la capoeira. Vous voyez, cet art martial qui se fait en musique, où les gens combattent en s'évitant et en se frôlant. Il est absolument fasciné par cette danse combative. Et il me semble qu'on pourrait dire que l'écriture, elle pourrait ressembler à ça, d'une certaine manière, à une forme de capoeira entre les deux personnages.
Il dit à un moment, depuis Bruce Lee, je n'avais rien vu de plus beau. Je passe des heures à regarder ça dans la rue. C'est le comble de ce que j'ai toujours préféré dans les arts martiaux, l'approche de l'adversaire. Et dans la structure de la pièce en général, il me semble qu'il y a trois mouvements de manière très grossière. Il y a un premier mouvement où les personnages vont à la rencontre l'un de l'autre. C'est l'appel du dealer. C'est lui qui est là, qui est campé, le client passe. Et c'est le regard que pose le dealer sur le client qui crée un appel vers la rencontre. À ce moment-là, on pourrait croire que le dealer domine, parce qu'il est chez lui et que le client lui dit que lui ne veut pas rester là, ni s'arrêter, ni quoi que ce soit. Et en même temps, j'ai l'impression que ce n'est pas vrai, parce que le fait d'être en position défensive, pour le client, ça le met aussi en posture de force. Parce qu'il lui dit, non, mais attends, toi tu es chez toi, dis-moi ce que tu veux de moi. C'est pas, voilà, on est sur ton territoire. Et donc du coup, ça crée une espèce d'égalité, je trouve. Et au bout de quelques pages, il n'y a plus, ça c'est une métaphore qu'il y a dans la pièce, il dit, il n'y a plus de brut, il n'y a plus de demoiselle.
Ah.
Voilà. Et moi j'aime bien cette expression, voilà, qui fait que voilà, ils sont à égalité. Et chacun va tour à tour tenter d'attirer l'autre sur son territoire. Donc, premier mouvement vers la rencontre. Deuxième mouvement, à un moment, il me semble que le client notamment, l'autre a peut-être encore un peu d'espoir, fait les preuves de ce que la rencontre est quasiment impossible entre eux. Ils n'arrivent pas à se comprendre, ils ne sont pas du même monde, il y a une espèce d'hostilité qui demeure. On sent que le dealer a encore de l'espoir, quand le client peut-être n'y croit plus. On a l'impression que Coltès, je ne sais pas, moi j'ai pas l'impression qu'il prenne une position, il essaie juste de mettre deux personnes à l'épreuve d'une rencontre possible. Ça marche ou ça marche pas, mais il y a quelque chose qui se tente, en tout cas. Et il y a peut-être un dernier mouvement, mais il continue quand même, il continue à se parler, et là les répliques deviennent plus courtes. C'est assez troublant ça dans la pièce. Ça commence par des monologues, je ne sais pas, qui font deux pages, deux ou trois pages, et plus la pièce avance, plus ça ressemblerait à un dialogue, on va dire. Comme si, se coupant mutuellement la parole, ils essayaient de construire un... Ils se disent, mais est-ce qu'il n'y a pas un troisième truc à inventer? Voilà. Ton monde, le mien, est-ce qu'il n'y aurait pas une règle commune à trouver, quelque chose qui ferait que peut-être quelque chose est possible? Et force est de constater qu'à la fin de la pièce, quand même, il n'y arrive pas. Et que la pièce se termine par... C'est toi qui le dis, hein, c'est le dealer qui le dit. Le client qui dit, alors, quelle arme? Quelle arme? Ça finit par une question. Alors, quelle arme? Et on peut se dire, mais pourquoi est-ce qu'il part tout simplement en disant, ben voilà, on n'est pas arrivé, au revoir, ciao. Et on a l'impression que la quête de l'autre, c'est un mouvement qui ne peut pas mourir chez Coltès. Ça existe, il me semble, dans plein de pièces. Donc, c'est pas possible d'en rester là. Il faut quand même finir sur un endroit qui dit que peut-être il y a quelque chose à chercher, encore quelque chose à trouver, même si ce n'est pas satisfaisant, il y a toujours quelque chose à recommencer et à reconduire dans cette recherche de rentrer en contact avec l'autre. On a deux hommes qui se croisent, et malgré l'hostilité et la défense instinctive, animale, entre la solitude d'un côté, qui ne semble pas être la solution pour Coltès, et de l'autre côté, la bataille qui pourrait mener à la mort, eh bien, il y a une chose qui peut-être est possible, c'est le langage. Et le langage, comme dans la fonction primitive du langage, c'est-à-dire le langage en tant qu'outil de coopération entre les êtres. Moi, là, c'est vraiment ça qui me paraît le plus fort dans cette pièce. C'est à un moment donné, voilà, la condition humaine, on sent que chez Coltès, elle est déterminée d'un côté par la solitude, de l'autre par des relations hyper compliquées, complexes avec les autres, mais que, à certaines heures, dans certains lieux, il est possible, par le langage en tant qu'outil de coopération, de créer les conditions d'une rencontre possible. Et du coup, en s'affrontant verbalement, ben, ils échappent aussi à la violence physique. Et je me dis, voilà, on est en 85, 86, en plein libéralisme. Il pose la question de la parole et il dit, mais du coup, qu'est-ce qui est acceptable?
dans ce monde dominé par l'idéologie de la consommation, c'est peut-être chercher chacun une position de sujet qui tente de soutenir son désir. De soutenir son désir et de soutenir le désir de l'autre également. Et la recherche d'un espace marginal, celui qui propose dans la pièce, c'est l'espace du deal. Mais qu'est-ce qu'il pourrait avoir, qu'est-ce qui pourrait être un espace du deal, un espace marginal dans notre vie, quoi? Et du coup, c'est là que pour moi arrive la question du théâtre. Puisque je me dis, mais en fait, il propose le théâtre. Est-ce que le théâtre, ça ne peut pas être un de ces espaces marginaux où à un moment donné, l'heure, le lieu fait que bah, les gens sont obligés de se courber les uns vers les autres, de se regarder, de se croiser, de se rencontrer. Est-ce que ça peut être ça, l'espace tiers? Est-ce que c'est ça aussi un lieu expérimental de rencontre qui a priori peut-être était impossible? Et moi, ce que ça me fait, je me dis, oui, c'est ça l'utopie en question. Pas en tant que c'est le seul espace, mais c'est peut-être un espace qui peut échapper au commerce illégal. Voilà.
Mémodio, une mémoire sonore.